Le premier ministre qui se prononce même sur cet événement de la fin de semaine. Jacques Villeneuve est de retour avec nous ce soir. On va lui parler dans quelques instants. On va aller à Las Vegas en direct tout à l'heure avec Benoît Beaudoin également. Et Vincent Destouches nous met la table pour le gros match de l'Impact contre Toronto dimanche et que j'ai hâte de voir ça. Accueillons maintenant tout de suite Philippe Quentin. Bonsoir Philippe.
Salut Mario.
Mayweather-McGregor, c'est rare qu'on parle de combat ensemble, oui. Philippe. Est-ce que ça te suscite une réaction chez toi, intérêt?
Oui, tout à fait. Écoute, c'est difficile d'éviter. Tu parlais justement de Justin Trudeau qui a même, qui en a même parlé aujourd'hui, qui s'est prononcé en faveur de Mayweather. Il a dit qu'à son avis, ce ne serait pas un gros combat. Donc lui, il s'attend, j'imagine, à quelque chose assez court, comme plusieurs experts. Écoute, non, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de boxe ensemble. Il y a une raison, très simple à ça. Moi, ça fait quand même plusieurs années que j'ai décroché de la boxe. Mm-hmm. Quand j'étais plus jeune, je te parle, dans les années 70, adolescent, j'aimais beaucoup la boxe. Tu sais, je me souviens de Mohamed Ali, George Foreman, que j'avais vu sur écran géant à l'époque, soit au Colisée ou au Pavillon de la Jeunesse, là, endroits, et d'autres combats aussi. Puis, tu sais, au fil des années, quand c'est devenu un peu mêlant là, avec les différentes associations de boxe qui essayaient toutes d'arracher la grosse part du gâteau, j'ai perdu beaucoup d'intérêt. Et puis, les arts martiaux mix, ça, personnellement, je n'aime pas ça. Je trouve que c'est d'une violence inouïe. J'aime pas le concept. J'aime pas ce sport-là. Pour moi, c'est très simple. Un sport où tu n'amènerais pas ton enfant de 10 ans, pour moi, c'est pas un sport qui m'intéresse. Et mes enfants sont plus vieux aujourd'hui, mais j'aurais pas amené un enfant de 10 ans voir un combat. Et pourtant, tu peux l'amener au baseball, au hockey, au football, etc. Alors, pour moi, donc, c'est un sport qui m'a jamais intéressé. Compte tenu de ça, je devrais pas m'intéresser à celui de demain soir, mais c'est difficile d'éviter. Écoute, tout le monde en parle. Et là, il y a un intérêt, évidemment, qui est particulier parce que c'est plus qu'un adversaire contre un autre. C'est un petit peu la boxe contre les combats ultimes.
C'est une guerre entre deux mondes. J'ai l'impression qu'une partie du succès de l'opération marketing et qui nous conduit au combat repose un peu là-dessus parce que c'est du non-dit, puis en même temps, pas du non-dit tant que ça, parce que les gens qui ont grandi avec les porte-étendards, si tu veux, là, ou les gros visages, comme GSP qui a amené bien des Québécois à s'intéresser à ces sports-là, il y a comme une guéguerre de taverne en disant, ben voyons donc, ces gars-là sont bien meilleurs que les boxeurs. Alors là, on va en avoir la preuve peut-être.
Mais il y a un risque pour les deux. Un risque important, je pense, au niveau du jugement qu'on va porter sur ce sport-là par la suite. Évidemment, pour la boxe, si jamais un gars qui en est à son premier combat professionnel, quand McGregor battait Floyd Mayweather avec sa fiche absolument étincelante de 49 victoires, 0 revers, ça serait terrible pour la boxe.
Incroyable.
Mais inversement, ça à peu près tout le monde le dit. J'aborde pas un terrain nouveau, je défriche pas un terrain nouveau là, en disant ça. Mais par contre, moi je trouve que l'inverse est vrai aussi. Tu sais, si jamais ce combat-là prend fin en première ronde avec un knockout de Mayweather aux dépens de McGregor, ben tu sais, les combats ultimes aussi, ils vont en payer un certain prix aussi au niveau de leur réputation. Alors, je trouve que les deux sont un peu à risque dans tout ça. Et donc, de voir comment ça va évoluer, quel genre de combat on va avoir. Écoute, les opinions sont tellement divergentes, c'est presque dur de se faire une tête. Mais je lisais un article, puis je veux t'en parler parce que c'est vraiment intéressant dans le New York Times aujourd'hui, où tu as une association, écoute, je savais même pas que cette association-là existait. C'est une association des docteurs spécialistes je vais en prendre le mot anglais, le ringside, autrement dit des docteurs, des médecins qui sont habitués de travailler pendant des galas de boxe.
Dans les zones de combat.
Voilà, exactement, puis qui sont d'office pour surveiller ce qui se passe sur le ring. Mm-hmm. Et cette association-là, par la voix de son président, a donné une entrevue au New York Times dans laquelle le président dit qu'il est même étonné que ce combat-là soit autorisé. Eux, ils disent que l'avantage pour Mayweather est tellement évident qu'il voit mal comment on peut permettre à un athlète qui n'a jamais fait un seul combat professionnel, de boxe bien sûr, là, mm-hmm. de se mesurer à un gars comme Mayweather. Ils disent qu'ils sont étonnés que ça soit
homologué,
permis.
Là,
ouais. Ouais, voilà, exactement, exactement. Alors donc, on voit tout de suite là, qu'il y a un débat. Et là, c'est la question aussi, c'est l'arbitre de ce combat-là. Tu sais, en boxe, tout à coup, l'arbitre peut s'imposer puis donner un chaos technique. Dans un combat comme celui-là, l'arbitre, il va être surveillé de près. Est-ce qu'il va, tu sais, si jamais on en vient dans une situation où un chaos technique pourrait s'imposer d'un côté ou de l'autre, ben, ça va être une grosse responsabilité aussi pour lui, parce que les répercussions de ce verdict-là risquent d'être énormes aussi. Alors donc, on le voit que c'est un combat qui suscite, oui, il y a un enjeu de qui va gagner, bien sûr. Il y a l'enjeu entre la boxe et les combats ultimes. Il y a un enjeu de santé aussi également. Alors, ça joue sur plusieurs tableaux. Il y a des enjeux monétaires, ça.
HBO, Showtime, la guerre des réseaux aussi.
Oui, 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 oui. Oui.
Il y a un combat de coteau demain soir, personne n'en parle. Et Golovkin s'en vient contre Alvarez, puis tu sais, ça tombe deuxième parce que là, ils prennent actuellement vraiment tout l'espace médiatique.
Écoute, puis tu sais, tantôt, c'était la pesée. Je ne l'ai pas regardé à la télé, mais je l'ai suivi sur Twitter parce que ça
bombardait.
Oui, voilà, exactement. Alors là, les deux boxeurs, là, puisque c'est un combat de boxe, alors on va dire les deux boxeurs ont fait le poids. Et bon, la tension était déjà vive. Alors, on va voir ce que ça va donner demain, mais c'est sûr que c'est intéressant quand même de voir qui va gagner ça. Puis c'est sûr que là, on peut pas, comme je te le disais tantôt, on peut pas, même moi qui est pas un fan de boxe, c'est certainement pas un fan de combat ultime.
Ouais.
Voilà, exactement.
Ouais. La dernière, pas la question qui tue, mais comme Éric Lucas me disait, il dit, je veux pas le louer, mais je vais peut-être attendre le lendemain matin où je vais voir. Toi, vas-tu le regarder en direct?
Écoute, je sais pas si je vais pouvoir le faire, là, mais pouvoir... Pour différentes raisons, mais pouvoir, oui, je le ferai sans doute. Oui.
Ouais, ben moi aussi, je vais me rendre à l'évidence, c'est ça que je vais faire, pour savoir les mieux pour en parler lundi, quand on va tous se retrouver. On va parler de tennis maintenant. Alors, Denis Shapovalov confirme, ça c'était des matchs de qualif, là, mais reste qu'en tout cas, il poursuit son élan de la Coupe Rogers. Aujourd'hui, il perd une manche, gagne les deux suivantes, et là, le voilà sur le tableau principal, alors que Françoise Abanda, elle, a été éliminée.
Ouais, très impressionnant ce qu'il a fait, Denis Shapovalov, aujourd'hui, parce qu'il a perdu le premier set, il est revenu, il y avait beaucoup de pression sur lui à ce moment-là. Et après sa belle performance à Montréal, je pense que c'était important pour lui de se qualifier pour l'Omnium américain. S'il avait échoué dans cette tentative-là, il y a des gens qui auraient dit, ben, vois-tu, c'était à Montréal, il jouait devant un public conquis d'avance, qui prenait pour lui tous ses matchs sur le court central. Il était porté par cette énergie-là très particulière, mais là, quand il arrive dans un environnement plus difficile, il n'a pas été capable. Mais ce n'est pas le cas. Et au contraire, il a prouvé, à mon avis, bien des choses aujourd'hui. Mais ce gars-là a vraiment... une capacité de concentration, clairement, puis de performer sous pression. Parce que, tu sais, dans son tournoi à Montréal, oui, il a battu Nadal, puis ça a été absolument extraordinaire. Un grand moment de sport dans l'année à Montréal et au Canada, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Mais moi, ce qui m'a encore peut-être plus impressionné à quelque part, Mario, c'est le lendemain, tu sais, quand il y avait encore sans doute le goût de célébrer cette victoire unique-là, tu sais, qu'il a réussi à battre son adversaire suivant, qui était un Français... qui était certainement pas parmi les meilleurs au monde, et il a réussi à le vaincre, et encore une fois, il était revenu de l'arrière. Donc, c'est un gars qui a beaucoup, beaucoup de ressources, et de le voir, moi, se qualifier pour l'Omnium américain, c'était vraiment un gros défi pour lui. Il devait, à quelque part, réussir, et il l'a fait, puis il l'a fait de belle façon, dans un match qui n'a pas été facile. Il a montré énormément de cran. Bref, c'est le fun de voir ça. C'est décevant. Toi et moi, on a parlé mercredi de Félix Auger-Aliassime.
Oui.
Malheureusement, par la suite, Félix Auger-Aliassime a perdu. Lui, il a participera pas au tableau principal. Mais encore une fois, n'oublions pas, il a raté plusieurs semaines d'activité. Il n'a pas pu s'entraîner autant. Oui, au niveau du cardiovasculaire, mais pas autant qu'il le souhaitait au niveau du tennis en raison de cette blessure-là au poignet. Alors, je pense que pour lui, il faut qu'il reprenne tranquillement ses marques et puis jouer encore plus de matchs.
Je ne veux pas faire de la surenchère à propos de Shapovalov, mais tu entendras possiblement, ou les gens entendront plus tard, Hélène Pelletier. Et pour y avoir parlé cet après-midi, et ça donne un petit peu une idée de l'où on va aller, c'est que je vais demander, je veux pas, je sais que c'était un peu prématuré, mais vois-tu en Chapovalov là, des ingrédients d'un top 10? Et sans aucune hésitation, elle a dit oui.
Ah oui, oui, moi, je pense qu'Hélène a entièrement raison et je pense que les gens de Tennis Canada pensent ça aussi et leur analyse est souvent très, très juste parce que moi, je me souviens à l'époque où Milos Raonic commençait vraiment à briller sur la scène internationale chez Tennis Canada. Je me souviens que Louis Berfiga m'avait dit, bon, un jour, il va gagner un tournoi du Grand Chelem. Et bon, il n'en a pas encore gagné un, mais il est venu très près, très, très près l'an dernier. Alors, mais lui, encore une fois, et c'est là que tu vois, tu peux faire toutes les prédictions puis sur Raonic, sur Chapovalov, puis sur Félix Auger-Aliassime. C'est sûr que ces gars-là ont le talent. Là. Ça, c'est clair, puis ils ont la capacité de briller au plus haut niveau. Mais ce qui importe tellement, puis s'il y a une question de chance là-dedans, c'est la santé. Est-ce qu'ils sont capables de demeurer, oui ou non, en santé? Là, tu vois Raonic, combien c'est difficile.
Pour
il doit encore une fois se retirer de l'omium américain. Il a joué un match à Montréal. Il a été fin de le jouer. Peut-être qu'il n'aurait pas dû le jouer parce que manifestement, il n'était pas bien. Il était également blessé un poignet. Mm-hmm. Mais bon, c'était les fans de Montréal. C'était son tournoi national. Il voulait être là avec le recul. Peut-être qu'il aurait dû prendre congé, mais il ne voulait pas faire ça. Ce qui, à mon avis, en dit quand même assez long sur lui. Le respect des fans de Montréal, je trouve ça assez admirable comment il a fait ça, Raonic. Mais là, aujourd'hui, il n'est pas encore remis. Alors, c'est ça. C'est souvent les blessures. Ça joue tellement un rôle important dans la carrière d'un joueur de tennis, puis dans tous les sports, c'est l'évidence. Mais au tennis, on le voit, là, c'est très, très particulier.
Je veux te parler, on voulait en parler en début de semaine, mais c'est intéressant qu'on en parle seulement sur la fin de la semaine parce qu'il y a d'autres événements qui se sont produits autour de Colin Kaepernick, ce quart arrière ou cet ancien quart arrière des 49ers de San Francisco. Jouera-t-il cette année? Il y a un propriétaire qui semble démontrer de l'intérêt pour lui. Mais en tout cas, il y a du monde, il y a du vrai monde puis il y a du public qui démontre l'intérêt pour lui. Et ça, c'est assez clair. Hein?
C'est un gros débat. Hein? C'est un gros débat dans la Ligue nationale de football. Comment se fait-il que Colin Kaepernick, qui est encore un excellent quart arrière, qui est encore dans la force de l'âge, comment ça qu'il n'a pas été embauché par une seule équipe alors qu'on connaît les besoins criants au niveau des quarts arrière chez plusieurs équipes de la Ligue nationale, autant pour un poste de quart arrière numéro 1 que pour un poste de quart arrière réserviste. T'sais, juste pour illustrer là, les quarts arrière, combien c'est difficile, je me souviens d'avoir lu l'an dernier, Mario, je suis pas prêt à destituer qui l'avait dit, mais c'était quelqu'un qui était un véritable connaisseur de football aux États-Unis qui disait, tu sais, un quart arrière numéro 1, là, d'abord oubliez ça, il n'y en a même pas 32 dans la Ligue nationale de football, il n'y en a même pas un par équipe, un vrai numéro 1.
Et c'est vrai.
Il y en a peut-être une vingtaine qui sont des véritables numéro un. Alors donc, il y a toujours un besoin de quart arrière. On sait combien ils sont blessés, les quart arrière. Tu as vu la situation, par exemple, à Miami. Une équipe avec un jeune quart qui commence tranquillement à prendre de l'expérience puis qui est peut-être sur le point d'éclore, de devenir un grand quart arrière. Ryan Tannehill, blessé. Il va être blessé sans doute pour l'année. Puis qui embauche-t-on pour le remplacer puis combler le trou? Jay Cutler, qui a eu une carrière très difficile, qui s'est certainement pas bien terminé dans les dernières années et qui venait d'annoncer sa retraite, embauché comme analyste à la télévision, puis qui, finalement, 4 mois plus tard, me disait, ben, la télé, je vais remettre ça plus tard, j'ai une chance d'aller jouer à Miami. Alors, tu vois que le quart arrière, c'est une denrée rare. Et là, si Kaepernick n'est pas embauché, on sait bien pourquoi. C'est parce que, évidemment, il a contesté bien des choses l'an dernier. Au départ, c'était ce qu'il appelait, lui, la brutalité policière. Et là, sa façon, ça a été de ne pas se lever pendant l'hymne national. Après ça, bon, il a décidé qu'il se mettait un genou par terre dans l'hymne national. C'est un mouvement qui a été suivi par plusieurs joueurs, qui se poursuit encore cette année. Et la Ligue nationale de football, lui, il a envoyé un message en disant, regarde, on les aime pas tes opinions politiques, parce que sans ça, il y aurait un job. C'est certain, un gars de son potentiel. Alors
c'est
là, pour la première fois, il y a une équipe, Jacksonville, qui serait peut-être intéressée.
C'est là que tu vois, Philippe, que tu sais, dans le monde du sport, là, ça reste le monde du sport. C'est un milieu assez fermé, assez... sort pas du lot, sort pas du rang.
Non.
Parle pas
non.
plus fort que les autres, peut-être pas plus haut que le trou, parce que je t'ai dit que soit qu'on va te le faire payer ou on va t'isoler. Hein?
Ouais, exactement. Puis c'est parfaitement ça qui arrive avec Kaepernick, que c'est un problème. Et je suis content que ce soit un problème, d'ailleurs, pour la Ligue nationale de football, parce qu'il y a des gens qui commencent à dire...
T'as vu la manif devant le bureau de la NFL?
Exactement.
c'est bon, ça.
C'est ça. S'il joue pas, s'il est pas dans une équipe, on les regarde plus, vos matchs. Alors, tu vois que ça devient un dossier important. Et là, il y a de plus en plus de joueurs... même là, pendant les matchs pré-saison qui sont embarqués dans le mouvement. Alors, c'est tellement typique. La Ligue nationale de football, là, s'est peut-être dit, bien écoute, si Kaepernick n'a pas de travail, c'est un problème qui va s'estomper tranquillement. Il ne sera plus là, puis on n'en parlera plus. Bien, c'est le contraire. C'est le problème, il revient avec la force d'un boomerang là, qui revient. Parce que là, tout le monde en parle. Il y a des articles quotidiens sur ce qui va lui arriver ou non. Il y a d'autres joueurs qui embarquent dans le processus. Alors, la Ligue nationale de football les équipes, à mon avis, commettent une erreur importante. Et là, elles en paient le prix et la Ligue en paie le prix à l'heure actuelle.
Ils s'en sauveront pas aussi facilement, je te dis, que non, c'est non, pas non. Fini cette histoire-là.
Non, on en parle encore, comme je te dis. Exact. Toute la semaine, ça a été un sujet de conversation dans le football et dans les différents médias sportifs.
Philippe, je te souhaite sur ça une très bonne fin de semaine.
Ben, merci beaucoup à
bon
toi aussi.
Bon combat si tu regardes ça demain
ouais,
soir.
Oui, c'est ça. Ça risque d'être tard. Hein?
Ouais, ça va être tard. C'est ça qui est plate un petit peu, là, je veux te dire. On va se mettre des cure-dents, là, vous amenez les yeux ouverts. Puis arrive-nous en forme lundi pour le lancement de la saison.
Excellent, on a bien hâte de avec plaisir.
Bye bye.
Salut Mario.
Salut Philippe Quentin. Et dans un instant, Jacques est de retour parce que vous le savez que les F1 sont de retour en piste à Spa-Francorchamps, ce qui veut dire que Jacques Villeneuve est de retour aux amateurs de sport et on lui parle dans un instant.